Patricia Martin, votre invitée à présent, la philosophe Joëlle Zask, auteure du livre « Zoo Cities » paru aux éditions Premier Parallèle.
Joëlle Zask, bonjour.
Bonjour.
On sait que des chauves-souris ou des pangolins ont causé le Covid à cause d'une trop grande proximité avec l'homme. Et parallèlement à ça, les rues des villes qui sont évidemment... qui ont été plus tranquilles à cause du confinement, ont vu apparaître, alors ça dépend évidemment des régions du monde, mais des kangourous, des singes, des chevreuils, des sangliers. Est-ce que cette coexistence nous oblige à une réflexion philosophique nouvelle ?
Oui, alors en effet, vous avez très bien exprimé les deux versants de mon travail, d'une certaine façon, et puis aussi le contexte dans lequel il se situe. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, en fait, au moment où nous nous émerveillons de l'arrivée d'animaux en ville, nous réalisons qu'une trop grande promiscuité avec eux pourrait nous rendre malades. Mmh. Et donc la question qui va se poser, c'est celle de la bonne distance. Et je pense qu'effectivement, on ne doit pas bouder notre plaisir au sens où apercevoir des animaux en ville, c'est nous donner d'une certaine façon une expérience du sauvage en ville, ce qu'on appelait reconnexion avec la nature, ce qu'on appelait redécouverte finalement de nos liens avec les animaux. Il y a des animaux qui sont présents dans les villes, des animaux sauvages.
Et depuis fort longtemps.
Depuis toujours, il y aurait 1500 espèces d'animaux sauvages à Paris, dont des méduses dans la Seine. Donc les animaux sauvages sont parmi nous, mais d'une certaine façon, nous ne leur donnons pas droit de cité, d'une part, et d'autre part, nous ne les voyons pas, nous ne les considérons pas, nous ne reconnaissons même pas forcément leur droit à l'existence. Les animaux que nous avons en ville sont des animaux familiers, ce sont des animaux que nous pensons comme domestiques, des animaux que nous contraignons, que nous exterminons, des animaux finalement qu'on appelle aussi opportunistes et que nous n'aimons pas beaucoup. Mais en réalité, ce qu'a montré un couple de canards qui se baladaient sur le macadam à Paris, c'est que justement il y a quand même du sauvage dans ces animaux et que ce sauvage nous interpelle, il nous donne un espoir, parce que c'est aussi du sauvage qui est en nous-mêmes. C'est tout simplement une forme de liberté.
Mais pour autant, les animaux sauvages ne vont pas devenir domestiques, parce que ça aussi, vous l'expliquez très bien dans votre livre. Par exemple, un ours, comme on l'a vu, qui vient quasiment frapper à la fenêtre des maisons pour avoir de la nourriture, on peut s'imaginer lui donner des croquettes, et néanmoins, un ours nourri est un ours mort.
Voilà, c'est ce dicton qu'on entend beaucoup aux États-Unis, au Canada. Et de fait, la question que je me suis posée, c'est comment coexister, et non cohabiter, mais comment coexister avec les animaux sauvages de manière à ce qu'ils restent sauvages. Mmh. Et la question de la distance se pose à nouveau. De fait, donner à manger aux ratons laveurs ou aux chauves-souris, ça peut, ou manger nous-mêmes des animaux d'ailleurs, parce que finalement il y a une véritable symétrie, manger, être mangé, ça c'est la loi de la jungle. En tout cas, ça peut effectivement amener à notre contact des animaux qui vont risquer d'une certaine façon de nous contaminer, de même que nous les contaminons, enfin je veux dire, ça va vraiment dans les deux sens.
Ça dénature
absolument
tout, en fait.
Et donc l'ours qu'on nourrit est un ours mort, parce que d'une part on ne lui donne pas la nourriture dont il a besoin, d'autre part on le rend trop familier, finalement il perd ce qu'on appelle sa distance de fuite, et au final la seule manière de garder la distance qu'on aurait dû conserver au départ, ça va être de le tuer. Sous certaines latitudes, de le déplacer. Mais de le déplacer, en fait, les ours sont capables de faire des centaines de kilomètres pour revenir à l'endroit où ils ont trouvé de la nourriture facilement. Donc, le déplacer risque d'être vraiment voué à l'échec.
Mais c'est difficile pour l'esprit d'imaginer que la ville peut être plus protectrice que la nature, qu'une nature sauvage.
Alors, de fait, là, je pense qu'on adresse, enfin, on doit considérer ce que j'ai appelé un grand retournement. Dans Zoo Cities, à savoir qu'on peut le déplorer, mais que la nature est de moins en moins naturelle et que la ville est de plus en plus renaturée d'une certaine façon. Et il y a un paradoxe, là encore, à prendre en considération. On peut souhaiter que les animaux conservent leur place dans la nature et dans leur environnement initial, mais le fait est que aujourd'hui, on est confronté à un phénomène qu'on doit prendre en considération. Et ce phénomène, c'est, disons, l'augmentation absolument considérable de la quantité d'animaux sauvages et d'espèces, d'ailleurs, dans les villes aujourd'hui.
Où il y a aussi de plus en plus de plantes, mais le voisinage avec les plantes n'est pas dangereux.
Le voisinage avec les plantes peut ne pas être dangereux, mais si vous voulez, la plante, elle reste un peu dans le pot où on la met. On a tendance, si vous voulez, en ville, on construit la ville, qui est une ville initialement, je dirais, fortifiée, fermée, dénaturée. On fait table rase, on la construit, et après, on ramène des éléments. Et ces éléments végétaux sont souvent plus ou moins en pot. Ils sont pris dans le macadam. C'est une nature, en fait, qui est dans la même position que l'ours en cage ou que le fauve en cage qui est sur le toit... les toits de la ville de Lahore, par exemple. Mais en l'occurrence, non. Comment ? Parce que la question qui serait intéressante, c'est effectivement d'avoir un traitement analogue pour les plantes et les animaux, à savoir comment les intégrer dans la ville de manière à ce qu'ils restent sauvages. Par exemple, j'ai travaillé. Ben, je pense que c'est possible à partir du moment où la ville elle-même est considérée autrement que comme une anti-nature. C'est-à-dire comme un monde entièrement prévisible, un monde planifié, qui échoue parfois, qu'on peut transgresser, mais ça, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de concevoir la ville avec la nature, comme on le faisait, par exemple, dans la Grèce antique et jusqu'à aujourd'hui, dans les villages et dans les villes, où finalement, on construisait la place à partir du platane, qui était là, qui avait trouvé l'eau, et puis le village lui-même, d'une certaine façon, s'étendait à partir du platane préexistant. De même qu'à Montréal, la ville s'étend à partir de la montagne et du fleuve. De même que Paris s'étend à partir de la Seine. Si vous voulez, à partir d'eux et un faire avec qui n'a rien à voir avec cette ville telle qu'on l'imagine encore dans des jeux vidéo tels que Age of Empires ou League of Legends où on fortifie la ville, on fait table rase et puis après on ramène des éléments pour d'une certaine façon comme un parasite en fait qui va aller faire des ponctions à l'extérieur et finalement transformer la nature environnante et les autres cités d'ailleurs en ennemis prédateurs ou en stock de ressources.
Mais est-ce qu'il ne faudra pas aussi repenser les catégories, c'est-à-dire peut-être cette séparation entre deux mondes étanches, le monde sauvage et le monde domestique. Cette frontière, elle est poreuse, elle est fluctuante, vous l'expliquez bien dans votre livre aussi.
Oui, absolument, mais je pense que le domestique et le sauvage ont été polarisés un peu comme deux notions en miroir l'une de l'autre, alors qu'en réalité, on sait que les animaux domestiques sont aussi le produit d'une domestication de l'homme par l'animal, et alors qu'on sait que le sauvage, d'une certaine façon, nous traverse également. Ouais. Donc, c'est l'opposition entre la civilisation et la nature qui est en jeu, et on pourrait vraiment reconstruire la ville de manière à ne pas tabler sur cette opposition, au contraire, à la fluidifier.
Et inventer, c'est la dernière phrase de votre livre, inventer un habitat qui ménage une place à la part de sauvage en nous. C'est exactement ça. Zoo City, c'est donc un livre absolument passionnant, une très très belle réflexion sur les animaux sauvages dans la ville, Zoo Elsass, que c'est donc publié chez Premier Parallèle. Merci à vous.
Merci beaucoup.